BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech & Co Business sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure. On va parler des entreprises qui s'assurent contre la cybersécurité. Eh bien justement, elles le font, mais pas suffisamment. Seulement 15% des entreprises s'assurent aujourd'hui contre le risque cyber. On va en parler avec justement l'AMRAE qui vient de sortir son étude annuelle. On ira ensuite, on retournera sur Vivatech pour parler de l'IA à l'heure de l'informatique, du numérique durable avec nos experts. Et puis, on terminera cette première demi-heure. On reparlera cybersécurité avec la fondatrice de Sésame IT. Elle vient de gagner un gros contrat sur la détection des attaques sur les hôpitaux et Dieu sait si c'était un sujet important. Deuxième partie de l'émission, les femmes à la conquête de la tech, ce sera notre grand débat. On manque de profils féminins dans la tech, et bien on essaiera de trouver quelques solutions, quelques pistes avec nos invités. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, on va parler de cybersécurité, notamment d'assurance en termes de cybersécurité. Les entreprises françaises restent fragiles. On va en parler avec Philippe Cotel. Bonjour Philippe.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la commission SI et administrateur de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est l'association pour le management des risques et des assurances des entreprises. C'est une étude alors, qui s'appelle LUCY, hein, c'est Lumière sur la cyberassurance. Voilà, le LU et le CY. Alors si on devait résumer, c'est la quatrième édition de cette étude. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de faire voilà, une comparaison d'une année sur l'autre. Si on devait résumer un peu là, en quelques mots, on dirait moins de sinistres, mais un marché cyber français qui reste fragile. Est-ce que c'est une bonne définition ?
Oui, tout à fait. Commençons par les bonnes nouvelles. Oui. On a trois bonnes nouvelles. La première, pour les entreprises, c'est que les prix baissent. Et c'est la première fois depuis 4 ans, avec moins de sinistres indemnisés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que moins de sinistres pour les entreprises, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Malgré tous les ransomware, voilà, où les gens payent la rançon.
Et côté assureur, ils ont aussi eu un résultat très positif en 2023. Mmh. Donc, bonne nouvelle, entreprises et assureurs. Deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises qui s'assurent. Oui. On a plus 50% d'ETI, on a multiplication par 3 des entreprises moyennes. Alors, relativisons, on a à peu près 15% des entreprises moyennes en France qui sont assurées. Donc c'est très peu, potentiel est énorme.
Un gros potentiel. Ouais.
Et le troisième, c'est effectivement la baisse des sinistres, à la fois en nombre et en montant. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que c'est non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les ETI et les entreprises moyennes. Et comme les conditions d'assurance sont les mêmes, c'est pas que les assureurs payent moins, c'est plutôt parce que la prévention paye mieux et elle donne des résultats. Et on pourrait presque donner une corrélation entre entreprises assurées et entreprises qui gèrent bien son risque cyber.
Oui, c'est ça. Alors, le marché de l'assurance cyber, c'est quand même évalué à 328 millions d'euros. Alors, il a augmenté. Hein. Je regarde 2021, c'était 183 millions d'euros. Donc, on a quand même le risque cyber est mieux reconnu par les entreprises. Pourtant, il y a une progression de seulement 4%. Alors, quand on entend tout ce qui se passe, vous avez donné quelques éléments d'explication, mais comment, si on descend un peu plus en profondeur dans les explications,
Philippe Cotel ? Effectivement, on voit qu'il y avait une grosse augmentation en 2022, presque 70% d'augmentation du volume de primes. Mm-hmm. Et en 2023, on passe péniblement de 316 à 328 millions.
Plus 4%, oui.
4%. Et en fait, ce qui est 80% de la prime, ce sont les grandes entreprises. Mm-hmm. Et ce qu'on voit, c'est que les grandes entreprises ont profité de la baisse des prix pour acheter un petit peu plus d'assurance, mais à budget constant. Et en fait, 328 millions, c'est très peu.
Oui.
Si on regarde en France...
D'ailleurs, quand j'avais regardé les chiffres, je veux dire, c'est millions, milliards à un moment.
Oui. Non, tout à fait. Et la prime en France, responsabilité et dommage, c'est 60 milliards. Donc 328 millions, c'est tout petit.
C'est petit.
Et en fait, elle n'est pas forcément suffisante pour faire face à des gros sinistres. Donc on a un marché qui est volatile et qui peut se retourner du jour au lendemain.
Est-ce qu'on peut faire une... Alors vous l'avez dit, il n'y a que 15% des entreprises qui sont vraiment conscientes de ce risque cyber et qui s'assurent. Mais est-ce que c'est comme dans la cyber d'une façon générale? Les grandes entreprises sont mieux assurées. Bon, elles se sécurisent aussi beaucoup mieux. Les ETI un peu moins, mais voilà. Les PME, est-ce que voilà, il y a une différence entre les trois par rapport à ce risque et à cette cyberassurance qu'ils prennent?
On voit que la prise de conscience augmente, puisqu'on a de plus en plus d'ETI et d'entreprises moyennes qui s'assurent. Donc ça, c'est plutôt un phénomène positif. La deuxième chose positive, c'est que par rapport à 2020, 2021, 2022, grâce aux tendances que l'on a, on peut voir qu'un afflux nouveau de nouveaux entrants, les primo-accédants à l'assurance, en fait, ne dégrade pas le ratio de perte. C'est donc ces primo-accédants ont un niveau de cybersécurité suffisant pour ne pas dégrader le niveau de perte. Mmh. Donc il y a une prise de conscience supérieure et une meilleure prévention pour ces entreprises qui sont prêtes à franchir le pas.
Et il y a plus de maturité aussi, vous jugez, par rapport à ce marché? Alors peut-être maturité pour ces 15%, après il faut que les autres y arrivent.
C'est exactement ça. Il y a un peu plus de maturité aussi côté assureur dans les questions qu'ils vont poser, dans l'analyse qu'ils vont faire, de façon à pouvoir effectivement souscrire, proposer des propositions intéressantes aux entreprises qui font l'effort de prévention.
Oui.
Il y a quand même aussi pas mal d'entreprises qui n'ont pas accès à l'assurance parce qu'elles n'ont pas encore le niveau de cybersécurité
nécessaire. Oui, puis elles ne savent pas exactement qu'assurer, quoi, entre assurer ses data et assurer ses biens. Enfin, voilà, on a encore cette maturité-là à voir. Est-ce que, selon vous, ces chiffres-là, ça explique aussi que les entreprises, globalement, ont mieux réagi aux attaques? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, bon, il y a des attaques de premier niveau, on se laisse quand même un peu moins prendre, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, même si on n'est pas un expert. Et donc, il faut quand même des attaques un peu plus sophistiquées, voire un peu plus ciblées. Est-ce que, voilà, votre étude, Lucie, justement, montre ça?
On a interrogé le CESIN, qui est le syndicat des responsables de cybersécurité, et il nous confirme qu'à budget constant, les mesures de prévention ont été plus efficaces et ont permis aux entreprises qui étaient attaquées, et il y a encore des attaques réussies, de pouvoir mieux réagir et de diminuer l'impact de ces attaques-là. Donc, effectivement, on a une amélioration de l'efficacité de cette prévention. La prévention, ça paye.
Et comment vous l'anticipez, justement, avec l'AMRAE, sur 2024 qui est déjà bien entamé, mais la suite de l'année 2025, voilà, est-ce qu'on est sur un marché qui vous semble mature ou qui est un peu volatile? C'est-à-dire, là, on a 4%, est-ce que, voilà, si on en parle un peu moins, s'il n'y a pas de grosses attaques pendant les JO, finalement, les gens vont laisser filer un peu?
Il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est qu'on pense que les prix vont baisser parce que, effectivement, les résultats sont bons et qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent et qui entraîne un peu plus de concurrence.
S'il y avait moins d'accidents de voiture, voilà, forcément, la prime, voilà.
Par contre, 2024, c'est une année compliquée.
Ouais.
Nous avons les Jeux Olympiques, il y a plus de tensions internationales,
il y a des élections,
il y a aussi des technologies nouvelles comme l'IA qui donnent des moyens phénoménaux aux attaquants d'attaquer nos systèmes d'information.
Ou n'importe qui peut presque devenir un attaquant parce qu'on trouve des outils sur l'étagère, des primo-attaquants ça devient, entre guillemets, assez facile de devenir un pirate sans trop se faire repérer en plus.
Et dans ce contexte d'incertitude internationale, nous, l'AMRAE, on a soulevé le point qu'il y a une curiosité dans le droit français, une curiosité un peu anachronique puisqu'elle a de 100 ans, où le risque de guerre, qui est une exclusion classique de tous les contrats d'assurance, eh bien, en France, la charge de la preuve, elle est chez l'assuré et pas chez l'assureur. Ça veut dire concrètement que dans le cas d'une crise grave, eh bien, c'est à nous, assurés, à démontrer que, si on veut être indemnisé, que l'attaque que l'on a subie ne vient pas d'un État souverain. Alors que dans tous les autres pays...
Donc déjà, quand on sait que les autorités ont du mal, on pense que ça vient de la Russie, de la Corée du Nord, d'Asie, elles ont déjà du mal, les experts. Donc là, on va dire une entreprise, entre guillemets, lambda, devra prouver que l'attaque vient de Russie.
Non, ne vient pas de Russie.
Ouais,
pour être indemnisé. Alors que dans tous les autres pays, c'est à l'assureur à démontrer que l'attaque, elle vient d'un État souverain pour ne pas payer la...
Et donc ça, c'est quelque chose au niveau de l'AMRAE, vous le remontez, j'imagine.
On a alerté les autorités, les pouvoirs publics, qui nous ont entendu, et on espère que le législateur fera son travail pour essayer de rectifier cette situation et de nous mettre quelque part au niveau d'attractivité des autres pays. Parce que c'est effectivement une menace pour l'attractivité de la France et une menace pour le développement du marché.
Par rapport au risque cyber, on a vécu un peu des petits épisodes là, au cours de ces 18 derniers mois autour des ransomware, entre des assureurs qui disaient « Ouh là là, nous on ne remboursera pas si c'est... ne payez pas la rançon, on ne remboursera pas. » D'autres qui disaient « Bon, les petites rançons, on les laissera payer. » Il peut toujours y avoir des refus de couvrir des risques cyber aujourd'hui.
Alors, il y a des... Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une analyse de souscription qui est plus précise de la part des assureurs qui connaissent un petit peu mieux ce risque-là et qui vont exiger un certain nombre de choses au point de vue technique pour les entreprises pour être assurées. Concernant les ransomware aujourd'hui sont assurés.
Oui.
Mais l'AMRAE a clairement eu toujours le même message, c'est nous recommandons de ne pas payer les rançons et de faire en sorte que les assureurs continuent à nous couvrir pour les conséquences de ces ransomware.
En fait, quand je parlais de maturité là, tout à l'heure, on disait bon, il y a moins de sinistres, un marché cyber français qui est encore fragile, mais il y a quand même, on commence à avoir, alors, vous dites 15-20% des entreprises qui ont une certaine maturité, y compris dans le process de souscription. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent, voilà, il y a des choses, bon, je vais les mettre, c'est pas grave si elles disparaissent. Il y en a d'autres, par contre, faut qu'elles soient bien sécurisées.
Faut avoir bien en tête que l'assurance cyber, c'est deux choses. C'est d'abord un support, un accès au service après une attaque pour donner accès à l'assuré à des compétences techniques, des compétences juridiques, des compétences de communication qu'il n'a pas forcément en interne et de façon à lui remettre sur les rails le plus rapidement possible. Et ça, c'est un alignement d'intérêts entre assuré et assureur parce que plus vite l'entreprise revient à une situation normale, et moins le sinistre est important. Et la deuxième chose, c'est l'indemnisation post-crise qui permet aux finances de l'entreprise de rester à flot. Donc, c'est véritablement un atout, et c'est pour ça que nous, on considère que, évidemment, la prévention, c'est essentiel, mais que l'assurance cyber, elle contribue à la résilience de notre économie en donnant accès à ces ressources, à des TPE, PME, qui n'ont pas forcément accès à ça.
Et Dieu sait si on se retrouve démunis lorsqu'on est dans ce type de crise. Et bien, merci d'être venu parler de tout ça. Philippe Cottel, président de la commission SI, administrateur pour l'AMRAE, l'association pour le management des risques et des assurances des entreprises. L'étude s'appelle Lucie, hein, comme le L-U-C-Y, Lumière sur la cyberassurance. Allez la consulter, allez la télécharger. Il y a plein d'enseignements comme ceux que vous venez de nous donner si on vous réécoutez cette interview en replay. Merci Philippe Cottel d'avoir été avec nous. On se retrouve juste après. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté de Vivatech. C'était quelques semaines, mais justement, on a profité pour parler développement durable avec nos invités suivants, l'IA au service du numérique responsable. Voilà, on écoute tout ça. C'est juste après le jingle.
BFM Business Partenaire. BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Allez, on parle d'IA au service du numérique du responsable ou de l'IA durable avec nos deux invités, Mokhtar Bouraoui, lead Green IT chez KCIS. Bonjour.
Bonjour.
Mokhtar, merci d'être avec nous. Axel Dupuis, associé responsable activité ESG Tech et numérique responsable chez KPMG France. Bonjour Axel. Bonjour. Et je vais d'ailleurs démarrer avec vous. Comment on pourrait qualifier les impacts environnementaux de l'IA aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, l'IA, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une technologie qui est très gourmande en énergie. Il faut énormément de serveurs qui sont équipés de puces énergivores pour pouvoir entraîner, pour pouvoir utiliser ces modèles. On va avoir des impacts environnementaux qui vont être liés à la fabrication de ces matériels, mais également tout ce qui va être utilisation des modèles avec une consommation électrique qui est encore très carbonée aujourd'hui. Donc on a forcément un impact carbone qui est induit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'IAE, qui est l'Agence internationale d'énergie, estime que la croissance de l'électricité qui va être consommée par les data centers va doubler en fait, entre 2022 et 2026. Donc on est sur des chiffres qui sont assez importants, avec in fine une consommation qui devrait être autour de celle de l'Allemagne. Et cette croissance va être accélérée par l'IA et par la crypto également. Donc voilà, on se rend un petit peu compte de l'impact que ça peut avoir.
De l'importance des impacts environnementaux de l'IA. Mokhtar Bouraoui de la banque KCIS, comment ça se décline justement au sein de KCIS, cette IA durable, ce numérique responsable?
Ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse de l'impact de l'IA sur l'environnement a démarré récemment chez KCIS. Nous sommes face à un nouveau phénomène. Et je crois qu'il reste beaucoup à faire pour atteindre cette IA durable, cette IA responsable.
Ça s'ajoute à tout ce que vous avez mis en place déjà en termes de numérique responsable, hein, c'est ça ?
Effectivement, l'approche qu'on adopte pour l'IA s'intègre pleinement dans l'approche globale service numérique. Pourquoi ? Parce que, un, l'IA n'est qu'un sous-ensemble du service numérique. Et deux, la plupart des leviers qu'on adopte et qu'on met en œuvre pour le service numérique restent tout à fait applicables et peuvent être déclinés sur l'IA. Nous avons développé à KCIS, avec le support de KPMG, un programme, une stratégie Green IT en lien avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole. Cette approche vise entre autres à réduire l'empreinte environnementale tout en continuant d'innover vers des services, vers des technologies au service de nos clients et de nos fournisseurs.
Alors
de nos collaborateurs.
Les défis à relever, c'est quoi aujourd'hui ? C'est bon, il y a la culturation des collaborateurs, il y a des nouveaux usages. Enfin voilà, sur quoi vous travaillez ?
Alors concrètement, le programme qu'on met en place s'articule autour de quatre piliers. On va s'intéresser au début au volet sensibilisation. On va chercher à acculturer pour engager des actions collectives dans laquelle chacun joue un peu son rôle. Nous croyons fermement que notre quête vers la sobriété numérique passe par toutes les interventions et tout ce qu'on peut mettre en place. Le deuxième volet, ça sera la mesure. On va chercher à évaluer l'empreinte globale de l'IT en tenant compte de l'IA. Ensuite, il y aura la dimension projet. Et c'est là qu'on va promouvoir les comportements responsables et la sobriété numérique dans tous les projets, et ce, dans tout le cycle de vie, en fait. Et on va, pour finir, s'intéresser à notre écosystème pour les inclure dans notre démarche, et en s'assurant que nos fournisseurs s'inscrivent bien dans les principes de Green IT. Il faut dire que cette démarche reste bien évidemment à affiner au fur et à mesure qu'on avance dans le processus.
Oui, et puis vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous êtes obligé d'embarquer tout votre écosystème avec vous.
Tout à fait. Par contre, je reste persuadé qu'en jouant sur ces quatre leviers, je suis confiant et serein sur le fait qu'on sera dans une bonne posture pour promouvoir une IA durable.
Et pour cette IA durable, Axel Dupuis, il faut aussi parler de l'IA for green AI. Hein.
Oui, c'est tout un à peu fait, ça, avec quelques cas d'usage. Green AI, on essaie d'adresser la part un peu plus sombre de l'AI. Mais il faut savoir aussi que l'AI, elle peut apporter des solutions en matière de transition écologique et pour également atténuer les impacts du changement climatique. Il y a énormément de cas d'usage qui ont été identifiés. L'IA est finalement un accélérateur de ces cas d'usage. On parle d'agriculture de précision, on parle d'optimisation énergétique des bâtiments, de modélisation climatique. Voilà, il y a beaucoup de cas d'usage. On a de bon espoir que ça soit justement un des leviers pour nous aider à sauver la planète d'une certaine manière.
Oui, c'était important de parler d'IA durable parce qu'on le dit, hein, moi j'en suis intimement persuadé, les mois qui arrivent on va devoir davantage faire attention à toute cette consommation d'énergie avec l'IA que nous consommons tous. Merci à tous les deux, Mokhtar Bouaoui, Lead Green IT chez KCIS, et Axel Dupuis, en charge de tous ces sujets ESG Tech et numérique responsable chez KPMG France.
Merci Frédéric.
Et nous, Tech & Co Business se poursuit. On se retrouve juste après notre petit jingle.
BFM Business, Tech & Co Business, Startup Booster.
Et avec nous, Audrey Amédreau. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Sésame IT. Vous êtes spécialiste dans ce qu'on appelle la Network Detection Response. C'est parti sur une sonde de détection dans le trafic réseau pour repérer justement tous les événements qui ne vont pas et sur la cyber. Créée en 2017. 10 millions d'euros levés en 2021. On va y revenir. Et puis là, vous avez été, l'actualité, c'est le ministère de l'Intérieur qui vous a sélectionné pour assurer la protection numérique de plusieurs hôpitaux stratégiques dans le cadre des JO, hein, les plans de reprise, parce qu'on sait que tout ça va être très sensible. Ma première question, c'est sur quoi est parti, pourquoi avoir créé Sésame IT, voilà, sur quoi vous êtes parti de l'idée, vous êtes venu de l'idée, voilà, de créer Sésame IT sur ces sondes de détection réseau, où ça existait quand même, enfin voilà, qu'est-ce qui vous dit, il manque quelque chose, faut que j'y sois.
Ben, merci pour la question. Alors, l'idée, elle est venue quand même partiellement du parcours et de la rencontre, du croisement des chemins avec la loi de programmation militaire. Donc en 2017, enfin un peu avant d'ailleurs, plutôt en 2016. Le parcours, en fait, j'ai travaillé auparavant dans un secteur qui est celui de l'interception légale. D'accord. De télécommunications, les écoutes. Donc je déployais chez des opérateurs télécoms dans tous les pays démocratiques. Les opérateurs télécoms ont l'obligation de fournir des capacités d'interception sur leur réseau pour avoir leur droit de leur licence d'opérateur au gouvernement. Donc j'avais travaillé sur des solutions réseau pour aller chercher des détails dans des flux très importants, etc. Et en 2016, j'ai découvert la loi de programmation militaire qui était portée par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui cherchait des sondes pour mettre en application cette partie de la loi qui demandait aux OIV, donc aux opérateurs d'intérêt vital du pays, donc les grands organismes.
Du coup, vous aviez un peu les critères techniques sous la main, vous avez dit ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre ça en œuvre.
Voilà, et j'ai eu l'audace à cette époque d'aller les voir, puisque à l'époque c'était Thales et Airbus qui avaient été sélectionnés. Et qui avait eu un financement pour mettre au point ces sondes. Et je suis allée voir l'ANSSI en disant, voilà, moi, je pourrais peut-être participer aussi, vous proposer une solution, etc. Donc, au début, un peu difficile, sans compter que j'étais seule. Et puis, petit à petit, ils m'ont écoutée. Ils ont regardé ce que je comptais faire. Ils ont vu qu'il y avait vraiment un désir de répondre à leurs besoins.
Une connaissance, une expertise.
Et puis l'expertise à la fois des centres réseau et du monde un peu... du monde régulé.
Oui, oui,
parce donc, dans la discussion avec les autorités. Et puis le...
Et donc, il y a eu la qualification sur Annecy qui est arrivée. Et justement, aujourd'hui, vous ne vous adressez plus qu'aux seuls OIV. Hein, vous adressez l'ensemble des entreprises.
Absolument. Aujourd'hui, alors c'était un tremplin pour nous, c'était de se dire si on met au point cette sonde, qu'elle est reconnue par l'ANSSI comme une des rares qui sera autorisée à être utilisée par les OIV, on pourra derrière aller voir l'ensemble des entreprises pour leur proposer tout simplement une solution pour les protéger des cyberattaques.
D'accord.
Et c'est ce qu'on a fait. On a mis 4 ans et on a développé une solution qui a rempli certains critères, en tout cas des critères assez exigeants de l'ANSSI de sécurisation. Et puis petit à petit, on a ajouté des tas de fonctionnalités.
Et vous êtes une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Alors les produits, c'est GISO. Et il y a un nouveau qui est sorti au CHI.
Absolument. Notre plateforme de détection s'appelle GISO. Ouais. Et on a un service qui s'appelle au CHI, qui repose en fait sur le renseignement qui concerne la menace et qui nous permet de proposer à nos clients un renseignement, mais qui soit prêt à l'emploi pour pouvoir aller détecter dans les flux réseau des attaques selon les scénarios qui sont mis en place par les attaquants.
Et donc là, qu'est-ce qui se passait? Le ministère de l'Intérieur, il avait lancé un appel d'offres pour le plan hôpitaux. Alors,
absolument.
Oui, c'est ça.
Absolument. Donc il y a eu un programme qui a été mis en place, programme CARE, pour protéger mieux les hôpitaux qui sont quand même hyper.
Et ça continue, on continue.
Voilà, qui sont des targets assez visés par les.
Là, on l'a vu. Alors là, j'ai vu, c'était en Grande-Bretagne. C'était sur les transfusions sanguines là, qu'ils ont réussi à rentrer. Enfin, donc là, cet appel d'offres,
besoin, un appel d'offres et alors ouvert à des solutions françaises et des solutions américaines ou internationales. Et donc, Sésame IT a été choisi pour protéger effectivement un certain nombre d'hôpitaux qui vont être assez critiques pendant les JO. Donc, avec un besoin d'aller vite et de mettre en place un système qui
puisse... Les dates sont fixées, on va pas les bouger.
Et puis qui permette un système où l'on verra suffisamment tôt une attaque en cours ou un début d'attaque pour pouvoir réagir et bloquer les
flux. Par un plan de reprise,
avant la catastrophe.
Ce genre de choses. J'imagine, parce que vous n'êtes pas beaucoup d'acteurs aujourd'hui à avoir la qualification ANSSI aujourd'hui. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main ou de
à moitié. D'une petite main, avec peu de doigts. On est peu nombreux, mais les barrières à l'entrée sont quand même assez difficiles, sachant qu'une qualification ANSSI, c'est un parcours long et hyper exigeant. Oui. Que ce soit pour des solutions ou pour des services, il y a peu d'élus et il faut vraiment s'accrocher. Donc,
les 10 millions d'euros que vous avez levés, donc c'était en 2021, ça vous a servi à quoi? 2023, pardon. Ça vous sert à quoi? Il y a le recrutement, évidemment. On dit que vous êtes une cinquantaine de personnes. Justement, cette qualification ANSSI, ça demande des ressources. C'est aussi aller adresser un marché international.
Alors, les grandes raisons pour lesquelles on a fait cette levée de fonds. Cette levée de fonds, elle est arrivée après que nous ayons eu cette qualification et après que nous ayons eu un certain nombre de clients, de grosses structures, donc avec des projets conséquents. Donc, on avait un plan de recrutement et d'internationalisation, évidemment, mais au-delà de tout ce confort qu'une levée de fonds peut permettre dans une entreprise qui est assez jeune finalement, qui permet d'appuyer un peu plus sur la R&D, d'appuyer un peu plus sur l'export, etc. On avait besoin, en tant que jeune entreprise française, d'avoir des structures derrière nous pour nous aider à les convaincre encore plus de grandes entreprises françaises ou internationales, public ou privé, de choisir cette solution qui est stratégique dans la posture de cyberdéfense d'une entreprise ou d'une administration et de venir nous voir avec en tout cas une certaine sérénité sur la pérennité de l'entreprise, etc.
Et puis évidemment vous embrassez aussi le tout ce qui est intelligence artificielle, évidemment, parce que ça vous l'intégrez
évidemment. On a sorti beaucoup de fonctionnalités autour de ça très récemment qui font énormément progresser la détection et la protection, sachant que on a, nous, cette obligation d'être en veille permanente et de proposer de plus en plus de capacités autour de ça, parce que ça fait quand même accélérer la détection et prise de décision. Mais en plus, on est bien obligé de prendre en compte le côté offensif, la menace, qui elle aussi s'accélère à cause ou grâce à l'IA, de plus en plus de gens qui seront de moins en moins compétents vont pouvoir devenir des attaquants potentiels et faire des choses de plus en plus performantes. Aujourd'hui, l'offensive via l'IA n'est pas encore au point. On voit des choses, mais qui ne fonctionnent pas forcément, pas très bien. En tout cas, ça ne génère pas de vraies attaques. On voit des choses qui arrivent et qui progressent
Et qui vont pouvoir être utilisées par même des personnes beaucoup moins expertes. Bien, merci Audrey Amédreau, fondatrice de Sésame IT, d'avoir été avec nous. Vous allez rester avec nous parce qu'on va avoir un débat passionnant sur les femmes dans la tech, justement. C'est un grand sujet aujourd'hui. On a besoin de ces profils d'ingénieurs. On se retrouve juste après la pause avec nos autres invités. À tout de suite sur BFM Business.
Merci.
Tech & Co Business sur BFM Business.
Désormais, tout BFM Business s'écoute en qualité numérique avec le DAB+. Vivez une nouvelle expérience radio dès aujourd'hui sur l'axe Paris-Lyon-Marseille BFM Business, mais aussi RMC et BFM Radio, la déclinaison radio de BFM TV grâce à cette nouvelle technologie DAB+.
À l'écoute des entreprises avec Harmonie Mutuelle. Nous sommes en ligne avec Amandine Dubois-Fleury. Amandine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes salariée d'Harmonie Mutuelle et vous travaillez sur les questions de santé et qualité de vie au travail. Alors, les congés maladie sont fréquents et sont lourds de conséquences pour les entreprises comme pour les salariés. Et justement, vous, Amandine, vous avez été confrontée à cela.
Oui, j'ai eu en fait un arrêt de travail long suite à des problèmes de santé. Et à ce moment-là, Harmonie Mutuelle a été vraiment d'un réel soutien. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de reprendre mon travail et puis d'envisager la suite plus sereinement.
Alors concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place ?
Déjà, dès ma reprise, j'ai bénéficié d'un appui psychosocial pour m'aider à aménager mon activité et pouvoir ainsi reprendre à temps plein, malgré mes soucis de santé. Mm-hmm. Et Harmonie Mutuelle a également proposé des coachings santé avec des entretiens motivationnels, par exemple. Mm-hmm. Grâce à tout ça, aujourd'hui, je peux travailler tout en poursuivant mes traitements.
Très bien. Merci en tout cas pour votre témoignage. Et où peut-on se renseigner ?
Directement en agence ou sur le site harmonie-mutuelle.fr.
Merci Amandine.
Tech & Co, c'est toutes les innovations qui transforment votre quotidien. Smartphones, jeux vidéo, réseaux sociaux. Les meilleurs experts pour vous conseiller et vous informer. Articles, directs, vidéos, techandco.com, c'est le site pour tout savoir du numérique. Rendez-vous sur techandco.com.
Prenez un aller simple chez votre concessionnaire Mini. Et faites le trajet retour au volant de la Mini électrique édition Camden. Maintenant disponible d'occasion dès 195€ par mois avec 2950€ d'apport. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant total dû avec option d'achat finale 24 669,50€. Exemple d'offre LOA 48 mois pour une Mini électrique édition Camden d'occasion. Réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin 2024 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 339. Et chez Canal, en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
BFM Business, Tech & Co Business, le débat.
Le débat féminin aujourd'hui. Quelle place pour les femmes dans la tech? Vous savez que c'est un grand sujet aujourd'hui de diversité. Alors on manque déjà de personnel, on manque déjà de compétences dans la tech. Et évidemment, si on arrivait à attirer davantage de profils féminins, eh bien voilà, on pourrait aussi combler tout ça. Mais c'est pas aussi évident. Et vous le savez bien. On en parle assez souvent ici. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on a des entrepreneuses, des chercheuses autour de tous ces sujets. Je vous les présente. Dans l'ordre, Delphine Rémy-Boutin, Boutan, bonjour. Delphine, merci d'être avec nous. Vous avez coordonné ce livre qui s'appelle Athlètes de l'innovation. Voilà, où il y a tout un tas de profils, les femmes à la conquête de la tech, des sportifs, des chercheurs, des scientifiques. Enfin, il y a beaucoup de monde dans ce livre. On aura l'occasion d'en parler. Vous êtes fondatrice de l'accélérateur de croissance JFD. JFD, c'est la journée de la femme digitale. Voilà, au moins les choses sont dites. Et vous êtes aussi investisseuse à travers la société Harvard que vous présidez. À vos côtés, Akima Berdouze. Bonjour, Akima.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Hope Valley AI. Alors, on est dans l'intelligence artificielle, dans la détection du sein, la détection du cancer du sein. Et puis, alors, vous arborez le petit coq. Alors, absolument. J'ai appris, je connaissais le coq rouge, la French Tech, le coq bleu, la French Fab. Absolument. Et le coq jaune, c'est donc les entrepreneurs, voilà, la French entrepreneur.
Voilà, le co-créa de BPI France. Et donc, j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Voilà. Ils sont une femme entrepreneur de France. Donc, je suis Miss Charente Maritime.
Miss Charente Maritime. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. Et puis, on aura l'occasion d'en parler, parce que vous avez, hors micro, vous nous racontez que vous étiez installé à La Rochelle, justement, absolument, pour drainer davantage de profils, en espérant aussi drainer davantage de profils féminins. Avec nous également Valérie Ferré, vice-présidente de 3D Experience du programme, vice-présidente chez 3D Experience et EDU. Voilà, pour le programme éducation chez Dassault Systèmes. Et puis Audrey Amédro, que l'on resalue à nouveau, qui nous a fait le plaisir de rester avec nous, fondatrice de Sésame IT. Vous pouvez voir en replay l'interview d'Audrey juste avant sur la cybersécurité. Alors, autour de tout ça, ce livre, c'est une trentaine de femmes qui osent. Alors, il y en a beaucoup que l'on connaît, hein, Nathalie Collin du groupe La Poste, Virginie Morgon qui a longtemps été chez Euraseo, voilà, qui est partie vers d'autres destinées. Et vous êtes dit, voilà, il faut les mettre en avant. C'était quoi le but de cet ouvrage, Delphine?
L'idée, en fait, c'est d'abord c'est mon deuxième ouvrage, oui, que j'ai sorti. Le premier était Elle change le monde, et d'ailleurs Florence Huobini d'Asso Système faisait partie des 60 femmes qui se révélaient pour donner envie aux jeunes générations d'aller dans la technologie et l'innovation. Et ce deuxième livre que j'ai sorti le 22 mai, le premier jour de VivaTech, à l'aube des JO, aux éditions Flammarion, c'est pour rappeler que les femmes sont là, sont bien là, entreprennent dans la tech. On ne les voit pas assez,
oui,
mais il faut les montrer, parce qu'il faut changer le narratif pour justement donner envie à ces jeunes filles d'oser, d'innover, d'entreprendre ou d'intraprendre. C'est 34 athlètes exceptionnels, oui, qui ont une puissance d'agir absolument hors norme. La société n'est peut-être pas encore prête à les entendre. Il faut les écouter. Elles ont un regard sur la société qui a été capturé.
Il y a quelque chose que je retiens dans cet ouvrage. Voilà, je vous le présente à la caméra. Donc, il est aux éditions Flammarion. À un moment, vous dites entreprendre dans la tech, un levier d'émancipation pour les femmes. C'est pas suffisamment entendu, ça, aujourd'hui.
C'est pas suffisamment entendu. En général, les femmes ont un projet absolument incroyable de vouloir changer le monde quand elles entreprennent dans la tech. Mm-hmm. Sauf que le point de départ, c'est que déjà pour l'investissement, 98% des investissements vont aux hommes fondateurs et il reste 2% pour les femmes.
On se souvient de la fondation du fonds Sista, hein, pour justement pousser à ce que les femmes investissent. Audrey Amédro, justement, quand vous avez lancé ces... Alors, vous avez eu un parcours entrepreneurial, vous avez beaucoup d'expérience, hein, dans votre ingénieur de formation. Vous avez été dans la confection, hein, c'est ça, un moment,
effectivement. Un moment, j'ai une petite parenthèse plus créatrice.
Et puis vous êtes revenu dans la tech avec la cybersécurité. Pour vous, oui, vous sentez quand même, en plus dans la tech, c'est un milieu masculin.
C'est un milieu masculin, c'est un milieu effectivement où on est assez peu représenté et où il y a encore, j'ai envie de dire, c'est un peu cru, mais où il y a encore un peu de défiance envers les femmes.
Ouais.
Moi, je l'ai senti. Alors, il y a d'un côté de la discrimination positive et d'un autre côté quand même sous-jacente, une certaine défiance. On parlait des levées de fonds, évidemment. Oui. Moi, j'ai pas pu lever des fonds avec une série de slides, comme ça peut arriver, ou convaincre très facilement.
Alors que vous avez, vous avez un profil ingénieur, en plus c'est Compiègne, c'est ça, UTC Compiègne,
qui est plutôt
fait partie des écoles réputées.
Oui.
Enfin voilà, et ça suffit pas. J'imagine qu'un homme avec un même profil y arriverait plus facilement. La porte va s'ouvrir plus facilement et puis ensuite faut faire son chemin.
Absolument. Quoi. Il y a une sorte de normalité, mm-hmm, si vous voulez, quand c'est un homme qui se présente avec un projet, avec un risque, et il y a il y a une anomalie quand c'est une femme. Alors il y a beaucoup d'admiration. Waouh, t'es courageuse, etc., etc. Mais c'est pas aussi smooth que si on était un homme. Alors il faut se préparer à ça. Ça veut pas dire que c'est impossible.
Oui, oui, bien sûr. Preuve, bien.
Mais oui, oui, il y a quand même une différence entre. Projet.
Akima Berdouz, vous aussi, hein, dans plongé dans la tech, c'est de l'IA, on est dans un domaine très d'électronique, de l'informatique. Et pareil, vous, dans votre carrière, est-ce que, voilà, ce dont on parlait à l'instant, la place des femmes dans la tech, bah oui, vous avez trouvé, ça s'ouvre un peu, mais ça reste quand même.
Absolument.
Faut jouer des coudes, quoi.
Tout à fait. Donc, et pareil, effectivement, donc moi, je suis ingénieure nucléaire, donc, ouais. Au départ, et donc mathématicienne. Et c'est vrai, dans le domaine déjà du nucléaire ou des mathématiques, il y a très peu de femmes. Et c'est vrai que depuis des années, donc, je suis impliquée dans des associations pour attirer les femmes, les jeunes filles déjà vers les maths, leur dire les maths c'est un nom féminin, on parle de mathématiques élégantes, de mathématiques discrètes, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un grand manque justement pour attirer ces jeunes filles dès le lycée vers notamment les maths et puis vers les classes prépa et les grandes écoles d'ingénieurs parce que c'est finalement la voie royale pour aller faire de la tech. Et effectivement aujourd'hui les jeunes filles sont hyper représentées au niveau lycée, enfin filière générale, scientifique, mais en fait on les perd une fois qu'on arrive vers les classes prépa encore pire
dans la médecine ou vers d'autres.
Et donc et c'est vrai que dans mon monde de la tech où j'ai évolué, effectivement les femmes on est très peu, on va dire les femmes en plus dans l'entrepreneuriat technologique, on est quasiment des ce qu'on appelle en mathématiques des événements rares.
Donc moi par rapport à ce que vous dites, je lance un appel aussi, c'est au corps enseignant des prépas, je trouve qu'il est très masculin et qui est très j'ai toujours trouvé très dur envers les femmes, les profs des notamment des grandes prépas.
Mais c'est vrai qu'en fait,
ils emploient un terme très très dur, hein, dès le départ, de bataille, de tout ça. Enfin voilà, ça s'adresse à des garçons. Bon, les filles, vous suivrez si vous pouvez. Enfin, parfois encore un peu là. Hein.
Absolument.
Dans les prépas.
Tout à fait. On le retrouve même après, même dans l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, il y a des grilles, des références qui ont été faites par les hommes pour les hommes. Et on nous demande à nous, les femmes, de nous adapter et de rentrer dans ces grilles. Or, en fait, on est hors de ces grilles. Et effectivement, c'est un vrai challenge.
Alors justement, Valérie Ferré, vous avez, à l'occasion de la Journée internationale des femmes en mathématiques, justement, vous avez lancé un programme, donc l'éducation des jeunes filles aux mathématiques à travers Dassault Systèmes. Donc vous êtes dit, c'est effectivement, il faut les intéresser dès le plus jeune âge, parce que c'est là que ça va se démarrer. Hein, c'est pas tout d'un coup, on va pas avoir une lumière à 18 ans ou à 20 ans. C'est vrai que si on peut déjà être un peu plus alerté sur les maths. Et vous, c'est le programme que vous avez lancé au sein de Dassault Systèmes, racontez-nous.
Tout à fait. Alors bon, Dassault Systèmes, hein, quand même toujours un petit mot, une des premières start-up françaises, hein, fondée en 1981, aujourd'hui 23 000 collaborateurs, 28% de femmes. Donc c'est dur pour les femmes, peut-être entrepreneurs. En tout cas, nous, les entreprises, on veut des femmes et on recrute massivement des femmes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mais par contre, bien sûr, on se fait concurrence, hein, sur un terreau qui est quand même très pauvre. Et donc l'enjeu, notamment à travers nos programmes d'éducation, c'est d'adresser tous ces moments de décrochage que vous avez mentionnés, hein. Donc il y a 4 moments de décrochage. C'est 1, l'appétence des filles pour les mathématiques. Et donc là, c'est vraiment faire des programmes le plus tôt possible. Mmh. Elles décrochent dès le CE1, ça c'est le ministère de l'Éducation nationale qui le dit. 2, l'orientation des filles au lycée dans les filières scientifiques. La réforme des maths a été catastrophique, on est en train d'y revenir, mais de mon point de vue, pas suffisamment. 3, l'orientation dans les filières scientifiques et d'ingénierie dans l'enseignement supérieur. Et 4, même quand elles sont diplômées, qu'elles s'orientent vers des carrières scientifiques également dans les entreprises en tant qu'entrepreneuses ou autres. Et c'est sur ces 4 moments de décrochage-là qu'il faut agir, parce qu'à chaque fois, on en perd. Et nos programmes, ils sont vraiment sur ces 4 moments.
Et comment vous faites ? C'est-à-dire, vous allez recruter des personnes, des femmes, plutôt chez Dassault Systèmes, et leur dire, tiens, on va aller faire des séances dans des lycées, dans des collèges. C'est ça l'idée ?
C'est tout à fait l'idée. Donc aujourd'hui, nous, dans le cadre des programmes éducation, on a déjà donc 40 000 écoles partenaires dans le monde. D'abord des écoles d'ingénieurs, mais de plus en plus, en fait, on est allé vers les collèges, les lycées, et maintenant même vers la primaire, pour adresser ce moment goût des maths, et notamment goût des maths par l'expérimental. Parce qu'aujourd'hui, donc, Dassault Systèmes, c'est les jumeaux numériques. Je pense qu'on en reparlera un peu, mais nous, notamment, notre média, hein, c'est la modélisation 3D, qui est un média fantastiquement attractif pour les jeunes et les enfants.
Qui est visuel, qui est gratuit. Ouais,
et donc, effectivement, derrière, c'est une démarche scientifique, une démarche autour de la géométrie 3D, et donc il faut agir le plus tôt possible pour s'assurer que dès le CE1, on ne constate pas ces écarts et qu'on ait une appétence.
Et vous avez fixé un peu des indicateurs, vous avez dit, tiens, voilà, il faudrait qu'on ait réussi ça.
Alors, Nos premiers indicateurs.
C'est sur une génération assez longue, mais voilà.
Oui, alors nos premiers indicateurs, c'est nos indicateurs de recrutement. Donc aujourd'hui, on est 28% de femmes. L'idée, c'est d'avoir 30% de femmes en 2027. Mais vous n'imaginez pas les efforts pour gagner ces points Et ensuite, aujourd'hui, les étudiants. Donc j'ai dit 40 000 écoles, 8 millions d'étudiants. Et on a une croissance à peu près de 10-15%. Et maintenant, avec une focalisation particulière sur les jeunes filles. C'est relativement récent, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, d'abord, on adresse le problème de la pénurie d'ingénieurs, hein, qui est en France aujourd'hui déjà très problématique. On en parlera peut-être, mais France Ingénierie 2030, là, le diagnostic qui a été fait par Syntec Ingénierie, pour atteindre le plan France 2030, le plan stratégique, il faut 50 000 ingénieurs supplémentaires. Ouais. On en forme 40 000, il faut qu'on en
forme
50
000 par an. Et dans la cyber, on pourra en parler.
Voilà, donc sur certains domaines, c'est encore plus critique. Et donc, effectivement, c'est d'abord des objectifs pour le recrutement, pour s'assurer derrière qu'on ait le pipe suffisant pour pouvoir attirer et arrêter de se faire concurrence en entreprise sur, finalement, un terreau trop pauvre. Hein, l'idée.
Delphine Rimbouton, les soutiens les plus efficaces justement pour pousser les femmes, ce sont des programmes comme celui de Valérie.
Sir Robinson disait, pour changer le monde, il faut commencer par changer la façon dont il est éduqué. Je crois que tout démarre par l'éducation. Mais moi, j'ai quand même envie de dire, parce que je crois qu'il faut toujours penser à changer le narratif et peut-être à toutes ces jeunes filles qui nous écoutent, on n'est pas obligé d'être bonne en maths pour travailler dans la tech.
Oui, surtout aujourd'hui, avec l'IA, c'est vrai, on en parlera.
Et c'est la créativité au pouvoir, et l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente, surtout pas intelligente s'il n'y a pas des femmes. Et aujourd'hui, on voit à quel point ce monde qu'on veut meilleur grâce à la technologie, il est déjà biaisé. Et qu'il y a une urgence sociétale, en fait. Au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, etc., il y a énormément, et vous en avez cité un, beaucoup d'actions autour de tout ça, mais rien ne change, voire les chiffres régressent. Ouais. Donc, il faut... comme l'avait fait Christine Lagarde, des quotas, il me semble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Christine Lagarde, d'ailleurs, avait dit, avant les quotas, on cherchait des femmes et on trouvait des excuses. Après qu'on ait légiféré, on avait des quotas, on cherchait des femmes, on les trouvait. Donc, il faut des quotas. Il faut des quotas dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, etc. La parité n'attend pas. Aujourd'hui, il y a une vraie urgence sur ce sujet-là.
Et est-ce que c'est quelque chose auquel on pense, je posais la question à Audrey puis à Kima, on se dit, tiens, au bout de, quand vous avez créé Sésame IT, au bout de 5-6 employés, alors vous êtes une femme qui crée, mais au bout de 5-6 employés, le prochain, ça doit être une femme, enfin voilà, est-ce qu'on se dit ça quand on se lance?
Oui, alors, en tant que femme, on se le dit quand on se lance, et on se dit, moi, j'aurai des femmes dans mon équipe, parce que vu de notre porte, elles ont des qualités et des compétences intrinsèques différentes, donc la mixité étant très bonne, c'est toujours très attractif. Et puis après, il y a la réalité de recevoir, parce que, alors, moi, je suis pour les quotas pour mettre un accélérateur, effectivement, à ce mouvement de faire entrer les femmes dans la tech ou dans la création d'entreprise ou dans la direction d'entreprise. Il faut en mettre pour mettre un coup d'accélérateur, mais je suis convaincue que, malheureusement, il y a une histoire de, un peu de rôle modèle, et pour moi, c'est à la maternelle que tout se passe. Il faut que les petites filles se disent, voilà, une chef d'entreprise, le patron, c'est une femme ou un homme, mais pas avoir cette image d'Épinal toujours. Ouais. Le patron, c'est un monsieur avec une cravate, et la femme, c'est la maman ou qui s'occupe de choses un petit peu plus futiles, plus féminines, etc. Et là, on a encore du travail parce que finalement, dans tous nos, alors je veux pas rentrer dans le non-genré, etc., qui est encore vraiment une autre histoire, mais en tout cas de montrer que dans la société, une femme et un homme ont exactement, peut-être à part dans le bâtiment. Ou effectivement, ou dans un métier de charpentier où il faut être un peu costaud, et là il y a effectivement, mais en tout cas dans la tech,
en plus dans le domaine de la cybersécurité, enfin je sais que j'ai des RSSI qui m'ont raconté que une fois qu'ils ont eu des femmes dans leur équipe, même dans la façon d'aborder, c'était pas de l'ambiance, la façon d'aborder des sujets, c'était différent de voir comment réagir par rapport à une attaque,
la méthodologie, l'implication est différente. Je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre.
Il
y a vraiment une façon assez distincte de se lancer dans une tâche ou dans une mission, selon qu'elle est faite effectivement par un homme ou une femme. Et c'est très enrichissant. En général, c'est ultra efficace d'avoir des équipes mixtes.
Ouais. Ah, Berdou, justement, oui. D'avoir ces équipes mixtes, voilà, vous êtes fixé ça aussi
Plus que ça, nous, ouais. En fait, effectivement, nous, on est une start-up d'IA, et donc, effectivement, nous, on a besoin de femmes, et on cherche des jeunes data scientists, et d'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, on cherche des femmes pour créer l'IA de demain, en fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, les femmes, désolé, mais on représente plus de la moitié de l'humanité, oui. Et en fait, demain, déjà aujourd'hui, il y a l'IA partout. Et mm-hmm. donc, cette IA, elle est majoritairement développée par des hommes, avec un regard d'homme,
ouais. Et qui est censé. Une sorte de biais, tout ça, oui.
C'est énorme. Elle est, aujourd'hui, l'IA, effectivement, elle est genrée, elle est biaisée. On peut imaginer tout pas fiable. Elle est pas, voilà, elle est, c'est une boîte noire, etc. Et on a besoin de femmes. Nous, en fait, on l'assume. On dit, on cherche nos premiers recrutements. Ce seront des femmes, des data scientists, mm-hmm. parce que aujourd'hui, notre IA est là pour objectif de prédire, de détecter précocement
oui,
l'activation
vous,
du cancer
domaine,
du sein. Voilà, et donc, effectivement, et aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est tout à l'heure, tu disais qu'elle n'était pas intelligente, et c'est complètement vrai. En fait, ce sont des modèles mathématiques. Mm-hmm. D'ailleurs. Qui existe depuis 30 ans aujourd'hui. Forcément, oui. C'est la puissance des calculs qui ont fait
en
que.
Parle parce qu'il y a l'IA générative, voilà.
Voilà. Mais moi, quand j'étais étudiante il y a 30 ans, donc on faisait de l'IA, donc ça ne s'appelait pas de l'IA, donc c'était pas aussi sexy. Mais en fait, c'est les mêmes modèles mathématiques qui sont toujours derrière. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui et de jeunes filles, de jeunes femmes qui, ben, en fait, qui mettent leur empreinte finalement sur cette IA qui va changer le monde. Et donc, sinon, on va être écarté. Et c'est important mm-hmm. qu'elle, ben, en fait, qu'elle.
Et s'y
investissent et qu'elles mettent leur pas dedans. Quoi.
Et pourquoi ça marche à l'intérieur? Enfin, il y a des endroits où ça marche mieux. Vous faites ça à travers le monde, à cette initiative d'un système. On voit, je vais citer un pays que je connais bien, le Maroc, on voit beaucoup de femmes, de jeunes filles qui vont vers...
Jusqu'à l'école. Parce qu'après, c'est ça l'enjeu. Une fois encore, il faut adresser les quatre moments de décrochage. Parce qu'il y a des pays qui font très bien jusque les études supérieures, et notamment les pays émergents. Parce mm-hmm. que dans beaucoup de pays émergents, la filière scientifique-technique, c'est une filière d'émancipation économique. Il mm-hmm. faut après que ça aille avec une émancipation sociale. Hein. Oui. Donc on voit quand même de nombreux pays émergents où les filles sont diplômées en sciences, en ingénierie et ne finissent pas par travailler en sciences et en ingénierie. Donc voilà, le problème sociétal, il est global. Mais c'est vrai que oui, il y a des pays dans lesquels ça fonctionne mieux parce que la science et la technologie est perçue comme un facteur de progrès social et de progrès économique et de développement mmh. au niveau du pays et au niveau personnel. Et je pense qu'on revient vraiment dans une dynamique comme celle-là aujourd'hui en France. Il y a l'IA, mais il y a toutes les transformations industrielles pour un monde plus durable qui font que de plus en plus, on est en train d'inventer une nouvelle société.
Je dis pas que les femmes sont plus sensibles à certains sujets, mais c'est vrai que peut-être que pour en attirer davantage, c'est la tech pour la santé, la tech pour le développement durable.
Oui.
Voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être attirer davantage des profils féminins.
Tout à fait. Alors moi, j'ai tendance à dire que la technologie, c'est un moyen. Ce qu'on est en train de reconstruire, c'est une société scientifique. Ce qu'il faut remettre au centre de notre modèle de société, c'est la science. La technologie, c'est un moyen au service de la science et d'un projet, finalement, de société. Et donc, il faut remettre en lumière cette dimension scientifique et industrielle.
Delphine, on le voit à travers cette deuxième édition de cet ouvrage, il faut aussi des modèles. Alors, on a eu des modèles des grandes mathématiciennes, des grandes informaticiennes, les premières, il y avait Grace Lovelace, il y avait Margaret
Hamilton.
Donc vous avez, c'est un prix Margaret.
Oui, absolument.
C'est ce que vous essayez de mettre en avant dans cet ouvrage. Enfin,
c'est absolument. À l'aube des JO, c'était aussi un clin d'œil pour rappeler que toutes ces femmes qui travaillent dans la tech, en entreprise ou qui créent leurs entreprises, intrapreneurs ou entrepreneurs, on est toutes dans le même combat que de vouloir que la technologie soit au service de ce monde meilleur. Et quand les femmes s'en emparent et qu'on leur donne cette possibilité d'avoir ce regard sur la société, je peux vous dire qu'elles sont, puissantes et elles changent le monde. Et c'était cette idée, en fait, de raconter l'histoire de toutes ces femmes exceptionnelles au travers 8 thèmes qui ont été validés par un champion olympique. Se dépasser, adrénaline,
intuition mentale, la compétition, la discipline, etc.
Pour rappeler, en fait, que entreprendre ou intraprendre, en tout cas, entreprendre sa vie, c'est un sport de haut niveau. Et qu'il n'y a pas que les hommes qui font ce sport, mais il y a aussi les femmes. Vous savez, IBM, dans les années 50, moi j'ai travaillé pendant 15 ans chez IBM avant de devenir entrepreneur, avait besoin de créer un nom qui n'existait pas, qui n'existait qu'en anglais, computer. Mm-hmm. donc calculatrices, c'était ces fameuses calculatrices, ces femmes qu'on mettait donc dans des petites, c'est le, ce fameux film, hein, les figures de l'ombre.
Les figures de l'ombre, oui.
Dans les petites, dans
en plus avec la discrimination raciale aussi.
En plus et Margaret Hamilton qu'on a simplement oublié, mais c'est grâce à elle que l'homme a posé le premier pas sur la Lune. C'est la machine a pris le relais parce que l'homme avait fait une erreur et que c'est sa ligne de code qui a fait que l'homme a marché sur la Lune. Toutes ces femmes oubliées, c'était à elles qu'on donnait ce rôle de... Elles étaient bonnes en maths et elles étaient bonnes en tricot, et c'était l'armée et toutes ces grandes entreprises qui leur donnaient ce travail-là. Aujourd'hui, on en est au même chiffre, c'est 30%. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 53% de l'humanité? Et juste pour finir, IBM donc, avait besoin de ce nom en français, computer, et n'arrivait pas à le trouver. Enfin, et donc a fait travailler des psychologues, etc., pour trouver un nouveau nom. Et le nom qui avait été évoqué, c'était ordinatrice. Et la réponse a été, c'est trop féminin. On va choisir ordinateur. Et ordinateur, c'est Dieu mettant de l'ordre. Eh bien, moi, je dis qu'il est grand temps de mettre de l'ordre. Elon Musk est dans ce livre. Le prochain Elon Musk est dans ce livre. Oui. Écoutons ces femmes. Elles ont quelque chose à dire pour la société. Elles veulent le changer. Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez. Mm-hmm. Elles sont de plus en plus à vouloir entreprendre dans l'impact, etc. Et qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tous les investissements vont dans les startups à impact. Mm-hmm. Donc, mesdames, jeunes filles, venez, il fait bon vivre dans la tech, on est bien payé, et on a besoin de votre regard.
Il y a une perspective en plus à l'international. Alors figurez-vous, moi j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai demandé, tiens, pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans la tech? Alors il me dit, les stéréotypes de genre et bien inconscients, le manque de modèles et de mentors, la culture d'entreprise, les écarts de compétences perçus par rapport à l'éducation, l'équilibre travail-vie personnelle, les réseaux professionnels, bon ça on a quand même, ça commence à se développer, et puis il me termine par me dire la discrimination systémique, c'est-à-dire que le côté où des hommes n'hésitent pas à dire oui, bon, j'y vais. On le voit, hein, je vais vous dire très, très concrètement, quand on organise des plateaux, on a souvent des hommes qui disent oui, je viens, c'est quel jour? Et alors que les femmes vont dire oui, mais est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir. Dans des startups, on dit mon cofondateur, lui, il est super, il va parler de ça, et on a beaucoup de mal à convaincre. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein.
Alors, c'est bien qu'on en parle. Je pense que ça, c'est le syndrome de l'imposteur qu'ont quand même beaucoup de femmes. Et qui font qu'elles réfléchissent 5 fois avant de faire quelque chose, qui est quelque chose, je pense, de positif, mais qui fait qu'on prend toujours un petit peu de retard, parfois. Voilà, et ça, effectivement, si ce n'est dans le modèle, l'éducation et le changement, enfin, c'est très sociétal.
Hakima Verdouz, vous ressentez ça, enfin, peut-être pas vous, mais en tout cas, c'est les profils que vous recrutez
Absolument. Moi, je veux dire aux jeunes filles et à toutes les femmes, voilà, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Hein. Mm-hmm. Voilà, moi, j'ai 53 ans, j'ai commencé à entreprendre à 50 ans, il y a 3 ans et demi. Et surtout, c'est le moment ou jamais, en fait. Et surtout, croyez en vous, n'hésitez pas, ne doutez de rien. Et moi, en fait, au départ, dès le départ, depuis que j'étais, tu parlais du CE1, et c'est vrai que moi, dès le départ, dès le CE1, je savais que ce que je voulais faire. Et donc, je me disais, voilà, je vais mettre les moyens pour y arriver. Et pour moi, à l'époque, bon, j'ai grandi au Maroc, donc je suis née au Maroc, donc effectivement, à l'époque au Maroc, de dire l'ascenseur social, c'est les maths, c'est ingénieur. Ouais. Voilà. Et donc, mon rêve, c'était de devenir ingénieur. Voilà. Et donc, il fallait que je sois la meilleure en maths. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA, c'est que des maths. Et donc, aujourd'hui, j'ai bossé dans le nucléaire, j'ai fait beaucoup de vie dans ma vie, et aujourd'hui, je suis dans l'IA. Pour la santé, pour la détection du cancer du sein, avec Hope Valley AI. Et en fait, la base, c'est les maths. Oui. Et voyez, donc, adorez les maths. Les maths, c'est pas compliqué. C'est une langue universelle. C'est génial. Et vous allez vous amuser. Prenez-la comme vraiment une super nouvelle langue. Voilà,
En plus, une fois qu'on a les bases, c'est assez facile.
Après, oui.
Bon, il y a de la recherche qui est très, un peu plus complexe, mais je ne sais pas, dans les programmes d'éducation, je mange les 3D Systèmes Edu.
Oui, alors ça, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui sont faites sur l'apprentissage des mathématiques. Moi, je trouve que ce que Esther Duflo a fait est saisissant, sur l'apprentissage par l'expérience, notamment. Elle avait fait cette étude sur les enfants en Inde qui sont sur les marchés, qui ne sont jamais allés à l'école et qui savent très bien faire des opérations. pour rendre la monnaie, pour calculer, etc. Et puis ceux qui vont à l'école qui ont du mal avec l'expérimentation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sciences aujourd'hui, de l'éducation sur la notion d'expérimentation des mathématiques. Moi je pense qu'il faut vraiment remettre l'expérimentation au cœur des apprentissages, parce que ça nous permet non seulement d'apprendre par l'expérience, mais surtout d'apprendre de façon un peu multidisciplinaire et donc de concrétiser un peu pour les enfants, c'est important. J'aimerais bien revenir aussi sur la notion ou de quota ou de changement systémique. Oui. Nous, moi, ce que j'apprécie particulièrement aussi chez Dassault Systèmes, c'est le middle management. Pour nous, voilà, 25 000 collaborateurs, on peut avoir, et on a une très belle représentation, bien sûr, les quotas au niveau des conseils d'administration. On a 40% de femmes. Moi, je pense que le comité de direction doit être exemplaire également. Hein, le COMEX, il est important qu'on n'ait pas un CA avec 50% de femmes et 20% au niveau du COMEX. Donc ça, il faut une exemplarité ici, pardon. Et puis surtout, le middle management. Parce que qui recrute, c'est le middle management. Oui. Où est le volume de recrutement? C'est dans le middle management. Et donc, on a également, nous, nos objectifs, hein, c'est 30% de femmes, 30% de femmes en middle management. Donc, à mesure qu'on croît notre population de femmes chez Dassault Systèmes, elles accèdent aussi plus à des postes.
Et le middle management, on arrive aussi dans la période d'une femme qui peut, la période où elle va avoir des enfants et tout ça, c'est ça aussi, enfin, qui vient en plus se rajouter. Donc ça,
tout à fait. Ben, moi, je peux le dire parce que j'ai eu ma promotion, j'avais ma deuxième fille qui avait juste un an.
Oui, mais c'est sûr, mais c'est au niveau des RH où ça doit se jouer. Parce
tout
que,
à fait.
Moi, j'ai démarré ma carrière professionnelle, c'est vrai qu'on disait, oula, non, la recrute pas, elle vient de se marier. Oui. J'ai eu ça. Hein,
oui, tout à fait.
Il y a une femme RH hein, qui m'avait dit non, elle va se marier dans 6 mois, elle va disparaître.
Oui. Alors que vous avez une femme en middle management, moi j'encourage tous mes collaborateurs masculins à bien prendre leur congé paternité, par exemple. Vous voyez, ça change le regard, mais c'est des choses très, très vite.
Absolument. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Valérie Ferré, donc vice-présidente 3D Expérience et du chez Dassault Systèmes, donc ce programme pour renforcer. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez qu'on parle davantage thématique à vos enfants et surtout si ce sont des filles, bien voilà, chez Dassault Systèmes, il y a ce programme qui a été lancé. Akima Verdouze, fondatrice de Hop Valley AI, on vous suivra. Hein. Alors à La Rochelle, puisque vous avez dit vous êtes installé là-bas, on n'a plus le temps d'en parler, mais on aura l'occasion de vous réinviter justement pour vous attirer sur cette belle ville de La Rochelle. Delphine Rémy Boutan, merci encore aussi. Donc cet ouvrage, Athlète de l'innovation, édition Flammarion, ça se lit en plus assez vite. Il y a plein de femmes, certaines qu'on a déjà repérées, d'autres qu'on ne connaissait pas du tout. Donc c'est assez. Et puis Athlète, évidemment, en ces années JO, c'est plutôt pas mal. Merci d'avoir été avec nous. Et puis Audrey Amédreau qui nous a fait l'amitié de rester avec nous. L'émission se termine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM.
Merci.
Tech & Co Business sur BFM Business.